Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour une nouvelle édition du débat de Presse TV français diffusé en ce jour 24 août depuis la capitale iranienne, Téhéran. Alors, à l'occasion du 40e anniversaire du Hezbollah libanais, le secrétaire général du Hezbollah libanais a prononcé un discours dans lequel il a tracé toutes les lignes et les politiques importantes et les lignes rouges surtout. Du Hezbollah libanais aussi bien dans les politiques intérieures du Liban qu'internationales. Il a effectivement évoqué plusieurs points importants, à savoir les évolutions de la région, surtout en ce qui concerne les tensions avec Israël, non seulement sur la zone contestée de Karish, mais sur divers points qui concernent les évolutions du Moyen-Orient. Il a évoqué également les relations avec l'axe de la résistance, l'Iran et les autres pays de cet axe. Alors aujourd'hui, dans ce débat, nous allons évoquer les divers points et les points importants de ce discours avec nos deux invités. Mais avant de vous les présenter, je vous propose de regarder un reportage préparé à ce sujet par mes collègues et on revient tout de suite après.
Son 40e anniversaire, le Hezbollah l'a célébré de façon bien singulière. Une reconstitution hologramme de son très grand commandant martyr, Imad Mughniyeh, a donné le ton pour cette cérémonie qui a eu lieu à peine à une dizaine de jours de l'échéance fixée par Nasrallah, au-delà de laquelle le Karish et autres sites gaziers israéliens seront visés si le Liban ne recouvre pas son droit d'exploiter ses richesses offshore. Dans un discours particulièrement attendu dans la région ainsi qu'à Tel Aviv et à Washington, le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, s'est livré à tracer non seulement les grandes étapes du parcours du mouvement depuis sa naissance en 1982, une naissance très fortement marquée par les idéaux du défunt fondateur de la République islamique, l'imam Khomeini, jusqu'à son émergence à titre d'un acteur non seulement étatique d'une puissance régionale, mais il a décrit la place du mouvement au sein de l'axe de la résistance, laissant entendre que toute confrontation anti-Israël à venir pourrait voir la contribution aux côtés du Hezbollah d'autres composantes de la résistance. Pour Nasrallah, la bataille qui s'annonce proche en Méditerranée est la victoire de l'an 2000 années où l'entité a fui le sud Liban et où son mythe d'invincibilité s'est effondré à jamais. Cette guerre prolongerait aussi la victoire de 2006, où le Hezbollah a définitivement fait son entrée dans la ligne de la défense des droits souverains des Libanais, qui couvre évidemment les droits pétroliers et gaziers du Liban, et que personne ne se trompe pas. Ce sont des droits à se faire restituer à n'importe quel prix, et les matraquages médiatiques des campagnes de diffamation et d'injures anti-Hezbollah n'y changeront rien. Au fait, la victoire de 2006 a débouché sur une constante et irréfragable équation armée-peuple-résistance, et c'est cette même équation qui a changé littéralement les règles de guerre avec l'entité sioniste.
Merci d'être avec nous. Nous allons alors analyser les points importants de ce discours à l'occasion du 40e anniversaire du Hezbollah libanais. Alors nous avons deux invités, Rada Oubala, géopoliticienne à l'Université islamique du Liban, donc qui est avec nous en direct de Beyrouth, mais également Madame Aïssar Midani, analyste franco-syrienne des questions internationales depuis Damas. Alors Madame Oubala, on commence avec vous si vous voulez bien. Donc, vous êtes au Liban, à Beyrouth, vous êtes géopoliticienne et vous suivez de très près les évolutions du Liban, mais également les politiques du Hezbollah libanais. Dans un premier temps, quel point faudrait-il retirer et se souvenir, en fait, de ce discours important du Seyed Hassan Nasrallah?
Oui, alors d'abord, je vous remercie pour m'avoir encore une fois invité sur votre plateau.
Merci
sur votre
à vous.
Plateau. Et je salue entre autres également votre invité. Pour répondre à votre question, alors le secrétaire général du Hezbollah, à travers son discours, a adressé deux messages. un message politico-militaire à l'intérieur et à l'extérieur, aux alliés, aux amis et aux ennemis. Et j'ai exprès, je me suis concentrée sur le message purement culturel, dans le contenu et dans la forme. Parce que ce discours était en fait encadré. Et c'est pour la première fois, je commence par le côté culturel, parce que pour la première fois, l'outil culturel est utilisé en tant qu'outil géopolitique. Mmh. Durant ces dernières années, c'est-à-dire ces 4 dernières années, le Hezbollah était la cible, et surtout ces derniers mois, après la victoire du Hezbollah aux dernières élections législatives, d'une campagne sur sa culture, sur sa littérature. Beaucoup de forces libanaises, de médias, d'intellectuels libanais ont accusé le Hezbollah d'être différent, voire étranger de la culture libanaise, de la nation libanaise, alors qu'il n'y en a pas, des traditions du Liban, etc. Et donc là, dans ce festival, en fait, son discours s'inscrit dans la célébration, comme vous l'avez bien dit dans votre introduction, des 40 années du Hezbollah, qui était baptisé 40 printemps. Un festival central a été organisé dans la banlieue sud, au cours duquel ont été diffusées plusieurs vidéos, dont certaines reprenant les chants révolutionnaires sur l'action résistante militaire de la résistance islamique. Mais surtout, ce festival s'est achevé par une scénographie panoramique multimédia intitulée « L'alphabet de la victoire », qui raconte l'histoire de ces 40 ans de la résistance au Liban. Et cette mise en scène a été réalisée par l'unité des activités médiatiques du Hezbollah. Donc, oui. Le Hezbollah a montré tous les exploits de la résistance islamique dans un cadre purement culturel. Il a utilisé des techniques très poussées comme les hologrammes, et jamais aucun festival de toutes les parties libanaises n'a entamé une telle expérience. C'est le premier parti, qui en plus est un parti doctrinal, qui a documenté ses exploits de cette manière. Donc là, j'ai terminé le côté culturel. Par rapport à son discours, alors il a divisé son discours. Il a commencé, bien entendu, par la lutte contre l'entité sioniste. Oui. Bien entendu, il a rappelé les exploits, les principaux étapes historiques, mais surtout, ce qu'il faut noter de nouveau, deux points, un sécuritaire militaire et un autre qui est lié à l'arsenal militaire. Il a bien souligné que dans cette ère du 21e siècle, il y a une révolution technologique, il y a de nouvelles armes de haute qualité. Tout comme l'entité sioniste ne cesse de se moderniser et de se renforcer, nous aussi, nous allons poursuivre notre voie, notre progression au niveau des armes de notre arsenal balistique. Donc, la résistance compte poursuivre son évolution, voir ses performances et les renforcer. Et un autre point concernant les hameaux de Chebra, où il a bien souligné que malheureusement, il y a encore une terre occupée par l'entité sioniste au Liban, et que nous avons exécuté quelques opérations de résistance dans le cadre de rappeler le gouvernement libanais qu'il est de son devoir et de sa responsabilité de demander à la communauté internationale, à l'ONU, de libérer ces terres. Personne ne répond au Liban, personne oui. au Liban n'a fait un tel geste, et donc il a bien déclaré que nous allons revoir notre position à ce sujet. Donc, ce qui veut dire qu'il compte peut-être réengager la résistance islamique mm-hmm. dans la libération de ces terres. Mm-hmm. Donc ça, c'était au niveau de la lutte contre l'entité sioniste. Et bon, je vais résumer très vite
oui, merci.
Tout le discours. Oui. Alors, juste 3 points. Il a bien souligné son soutien à la Syrie. Il a remercié le président Bachar al-Assad et feu le président Hafez al-Assad. Mais ce qui est nouveau dans son discours, c'est que il a bien souligné qu'aujourd'hui, il l'a dit 3 fois, c'est nous qui soutenons la Syrie. OK? Certes, il l'a mis dans le cadre que c'est que en fait on est en train de c'est normal en tant qu'allié, mais bon, cela signifie que nous avons désormais les capacités à le faire. Ensuite, il a bien souligné concernant les factions de résistance palestinienne que la coordination était toujours présente, qu'elle l'est toujours, qu'elle se poursuivra avec toutes les factions. Et enfin, il a déclaré que nous avons renforcé, il a dit, le Hezbollah a renforcé l'axe de la résistance dans la région. Ces trois points que j'ai soulignés, soutien à la Syrie, coordination avec les factions de la résistance palestinienne, renforcement de l'axe de la résistance, cela veut dire une seule chose, que désormais le Hezbollah est la fer de lance et le fer de lance de l'axe de la résistance. Voilà.
Merci pour vos explications, Madame Oubala. Restez en ligne, s'il vous plaît. Alors, Madame Idani, Madame Oubala vient de résumer le discours de Seyed Hassan Nasrallah, mais l'un des points importants auxquels Seyed Hassan Nasrallah a évoqué, en fait, dans ce discours, était la normalisation des pays du Golfe Persique avec Israël. Et selon Nasrallah, l'un des objectifs d'Israël dans l'affaire de Karish et les contestations sur cette zone pétrolifère et de pousser le Liban dans les bras d'Israël. D'abord, que pensez-vous en général de ce discours, mais surtout de ce point important?
Alors effectivement, ce discours est un point d'inflexion stratégique et important parce que non seulement il présente effectivement les acquis, les réalisations de la résistance libanaise depuis 1982, donc depuis 40 ans, son évolution sur le terrain, dans la libération des terres libanaises, donc dans les différentes batailles et les différentes étapes de libération, la dernière ayant été celle de la libération des Jouroudes du Qalamoun, de Arsal, en fait, de Daesh, et ceci donc en coordination avec l'armée libanaise et l'armée syrienne, mais aussi, donc, jusqu'à présent, donc, son engagement à fond dans cette lutte pour non seulement la libération du territoire, mais aussi la capacité, la nécessité pour que le Liban puisse disposer de ses richesses. Et là-dessus, il s'est montré complètement intransigeant vis-à-vis non seulement des Israéliens, mais vis-à-vis aussi des États-Unis et vis-à-vis de tous ceux qui soutiennent Israël, qui pourraient être à l'intérieur ou à l'extérieur, comme l'Arabie saoudite et tous les autres. Donc ça, c'est un point très, très important. Le deuxième point très important que j'ai relevé, c'est le passage à une construction de l'État libanais, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il y avait une étape de défense et d'aide, effectivement, de la population, mais maintenant, on va passer à la construction d'un État souverain, fort, et riche de ses richesses, de l'exploitation de ses propres moyens, et donc qui s'opposera à toute agression et à tout manquement dans ce sens qui voudrait de tous ceux qui veulent mettre la main sur l'indépendance de la décision politique libanaise et de sa souveraineté. Donc là-dessus, il y avait un message effectivement à l'Arabie saoudite, un message à tous les pays, aux États-Unis, bien entendu. Cette ambassade américaine qui est à l'intérieur du Liban s'arroge tous les droits pour aller voir tous les ministres, etc., et va discuter dans les détails de ce qu'il faut faire. Donc là, effectivement, le Hezbollah montre très clairement son intention de stopper, de mettre le holà à toutes ces pratiques extérieures, aussi bien donc les américaines que saoudiennes, que autres que Qatari, que autres pays arabes qui pourraient, ou autres pays comme la France et l'Angleterre. Donc ça, c'est vraiment une mise en garde importante, mais aussi une déclaration importante du programme à venir. Pour ceci, non seulement il dit que nous avons toute la puissance militaire pour le faire, mais la question, ce n'est pas seulement la puissance militaire, c'est aussi la puissance idéologique, c'est aussi les générations à venir qui sont formées effectivement à cette idée d'indépendance et de souveraineté du pays. Et là, nous, depuis 40 ans, nous œuvrons à ça et les générations à venir, nous comptons sur elles et, pour la construction de ce pays. Ça, c'est un point très, très important que, d'un autre côté, nous ne sommes pas opposés à toutes les relations d'amitié que vous pouvez avoir, là, s'adressant à l'État libanais. Nous ne sommes pas opposés à toutes les relations d'amitié que vous pouvez avoir avec tous les pays du monde, mais que personne, absolument personne, ne vienne titiller notre souveraineté et nous imposer ses vues sur la politique et sur les positions à prendre. Donc là, c'était un point vraiment très, très important. Dernier point très important qui a été aussi souligné par Mme Boubala, c'est la présence quand même, et le développement et la présence et l'intention de continuer à développer les relations avec l'axe de la résistance, dont le Hezbollah est un dirigeant important ou peut-être le créateur, mais aussi dont la Syrie est la pierre angulaire et l'Iran est aussi un des piliers les plus importants de cet axe de la résistance, qui ne se limite pas ni au Liban, ni à la Syrie, mais qui va à toute la région. Et, donc il a parlé du soutien à l'Irak dans la lutte contre le terrorisme, du soutien au Yémen, du soutien à la résistance palestinienne, qui est aussi au centre du combat aussi du Hezbollah. Donc, la nécessité et la volonté de continuer, non seulement dans ce sens, mais d'accentuer la coordination et la coopération, je dirais, stratégique dans le sens, cet axe de la résistance qui doit aller d'un renforcement à un autre pour garantir la souveraineté de tous les pays tous les pays et les peuples de la région, et donc face aux agressions répétées à la fois israéliennes et américaines, et aussi de l'OTAN, disons-le, parce que c'est pas seulement américaine. Derrière l'Amérique, il y a derrière les États-Unis, c'est toujours les forces de l'OTAN qui se profilent. On a vu d'ailleurs les positions absolument abjectes de la France au lendemain de l'explosion du port de Beyrouth, où Macron débarque comme dans un terrain conquis, je viens vous aider, etc. Et puis après, qui tient aussi un discours abject face à la classe politique libanaise, comme si c'était des petits enfants dans sa cour de récréation, il les engueule, etc. En fait, il y a un très violent manque de respect et une très violente dégradation de l'autre, je dirais, donc des responsables et puis des responsables politiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument inadmissible, et je pense que l'aspect implicite dans le discours de Hezbollah, de Samahat Cheikh Nasrallah, c'est aussi justement, nous devons être respectés et nous imposerons le respect à tous les pays du monde à travers notre souveraineté et notre fierté nationale.
Merci pour vos explications, Madame Idani. Alors, Madame Moubala, l'un des autres points assez importants dont ce discours a relevé, dont Madame Idani aussi en a parlé, c'est la souveraineté, non seulement la souveraineté du Liban, mais de tous les pays de l'axe de la résistance, à savoir la Syrie, la Palestine occupée. Est-ce qu'à votre avis, si Israël mène et continue et poursuit ses politiques interventionnistes et anti-souverainisme des pays de l'axe de la résistance, il y aurait vraiment un risque de confrontation Israël-Hezbollah?
Un risque de confrontation Israël-Hezbollah, à l'instant même où je vous parle, Je doute fort, d'abord parce que, de toute façon, comme l'a bien souligné ou rappelé votre invité, que oui, Saïd Hassan Nasrallah a été intransigeant concernant le droit du peuple libanais à explorer et à exploiter son gaz et son pétrole sans demander la permission de quiconque. Et que si on est obligé de s'engager par la force pour obtenir ce droit, nous le ferons. Et c'est pour la raison, c'est la raison pour laquelle il a donné il a lancé un ultimatum. Mais en même temps, il a bien souligné que nous attendons la réponse du médiateur sioniste américain, Hochstein. Mais ce qui est intéressant, c'est que bon, pour sortir en dehors du discours, je reviendrai plus tard un peu sur la question de la souveraineté, c'est que à l'heure où je vous parle, les médias israéliens viennent de rapporter, en fait, c'est et dans la nuit de mardi, bah, ils ont rapporté de la part de l'ancien ministre israélien Haïmon Ramon, je crois, qui avait commenté justement le discours de Saïd Hassan Nasrallah en disant que Nasrallah travaille à partir de motifs purement libanais et celui qui est responsable doit se préparer et prendre ses menaces au sérieux. Mais à la fin, il y aura un accord et il n'y aura pas de confrontation. Donc ça, c'est le discours des Israéliens en apparence, d'accord ?
Oui.
Donc, je ne pense pas que l'entité sioniste actuellement est prête à s'engager dans une confrontation avec le Hezbollah, alors que en Europe et surtout les États-Unis, tous les deux, selon leur propre agenda, que ce soit au niveau du gaz, de la crise du gaz et du pétrole, ou bien que ce soit à cause de l'accord nucléaire. Et voir, il y a des élections également aux États-Unis. Donc, je ne crois pas qu'ils sont prêts justement à soutenir une aventure de la part de l'entité sioniste. C'est la raison pour laquelle je crois qu'ils vont tenter de pouvoir signer un accord. Bon, ça, c'est pour concernant la confrontation, la réponse à la question de la confrontation. Oui. Pour revenir à la question de la souveraineté, comme l'a bien souligné votre invité, en effet, le Hezbollah, je veux dire le secrétaire général du Hezbollah, a rappelé en fait concernant la feuille de route du Hezbollah, à savoir que le document politique de 2009, nous avons, il a bien dit que notre vision du Liban, un Liban qui est une patrie définitive de tout son peuple, donc avec les 18 confessions. Et il a insisté sur la nécessité d'édifier un État juste et puissant, jouissant d'une vraie souveraineté, d'une vraie indépendance dans ses décisions. Donc, en plus de la souveraineté, qui s'inscrit dans le cadre justement de délimitation des frontières, etc., également une indépendance dans les décisions. Donc, il n'est pas question... C'est-à-dire qu'il faut faire respecter le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures au Liban, qui est tous les jours violé par la visite et l'ingérence de l'ambassadeur des États-Unis au Liban. Et d'ailleurs, il a rappelé, il a bien souligné dans son discours, de sorte qu'il ne soit soumis à aucune ambassade américaine ni à aucune domination étrangère. Donc, quand il parle de patrie, voire de nation libanaise, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il n'est pas question de changer la forme de l'État libanais. Donc, ceux qui parlent de confédération, de fédération, pour lui, cette question n'est pas envisageable. Premièrement, et deuxièmement, oui, il est pour la convivialité, voire que ces 18 confessions puissent vivre ensemble, cohabiter ensemble, parce que le projet du Liban en tant que tel, dans sa forme, est un projet anti-sioniste dans la forme, puisque le régime sioniste ou l'entité sioniste est un régime qui n'accepte que la religion pas la religion juive, que le sionisme. Et donc, c'est la raison pour laquelle il insiste sur l'idée de nation libanaise souverain, c'est-à-dire qui a les capacités de défendre sa souveraineté.
Oui.
Et enfin, juste un dernier mot, concernant justement les 40 printemps du Hezbollah, le chiffre 40 dans la culture des chiites du Haut-Décimain signifie que l'homme ou l'être humain ou toute institution, toute révolution a atteint sa maturité.
Oui, oui.
Et donc, elle peut compter sur elle-même. Et donc, quand il marque ces 40 printemps, la maturité à laquelle le Hezbollah est arrivé, que ce soit au niveau militaire, au niveau politique, comme l'a bien souligné votre invité, puisqu'elle a rappelé comment le Hezbollah justement a réussi à s'intégrer sur la scène politique, et voire il a déclaré Merci. Qu'il comptait le faire encore plus, mais en plus il est arrivé à une maturité culturelle.
Oui, merci pour vos explications. Nous avons une minute devant nous. Madame Idani, si vous pourriez avoir le mot de la fin, on vous écoute.
Mm-hmm. Alors moi, je pense, contrairement à ce que pense Madame Oubala, je pense que les Israéliens, ils prêchent toujours le faux pour prendre les gens en traître. On a bien vu comment s'est passée leur demande de cesser le feu à travers à Gaza et puis en Palestine, en suppliant l'Égypte pour intervenir, pour faire ce cessez-le-feu après 3 jours avec le djihad islamique. Et ils n'ont rien tenu de tout ça, en fait, hein, à tel point que même maintenant les Égyptiens ne peuvent plus supporter cette utilisation qui a été faite. Aujourd'hui, quand ils font des déclarations en disant « on ne peut pas faire de guerre, on ne peut pas faire face, etc. », pour moi, c'est aussi prêcher le faux pour prendre les gens en traître. Hein, et c'est leur habitude, c'est toujours « on ne veut rien faire, etc. » Et puis ils attaquent, mais ils attaquent en masse. Mais pour moi, je pense que le Hezbollah sera prêt. Et s'ils attaquent, c'est aussi effectivement une attaque, une riposte en masse à laquelle ils vont avoir à faire en face. Et puis, ils vont être perdants, même au niveau militaire, malgré toute leur tergiversation et tout leur cinéma, j'allais dire, pour cacher leur jeu.
Merci pour vos explications. Alors, nous avions avec nous Rada Oubala, géopoliticienne et docteur en géopolitique à l'Université islamique du Liban, Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne des questions internationales depuis Damas. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis, comme d'habitude, pour une nouvelle édition du débat. Je vous souhaite à vous toutes et à tous une très bonne journée. Au revoir et à très bientôt.